L'ouverture d'une porte de cellule. L'ouverture.
Je regarde s'ils sont présents, et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé. Humilié. Déshumanisé. 200 000 francs la télé.
Un matin.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, vous êtes bien à l'écoute de Radio Dio 89.5, à l'écoute de l'émission Papillon. Alors, pour présenter en deux mots Papillon, c'est une émission sans compromis avec l'État qui parle des prisons, des détenus et de leurs proches. On veut être le relais entre ce qui se vit en détention et à l'extérieur. C'est pourquoi n'hésitez pas à nous faire part de votre vécu de prisonnier-prisonnière ou de proche de prisonnier. Nous sommes là pour dénoncer et faire réfléchir sur l'idée d'enfermement et toutes les conséquences qui en découlent. Bienvenue à tous et bonne écoute. Alors, au sommaire de cette émission, après quelques brèves, nous entendrons le témoignage d'une femme qui raconte son parcours dans différentes prisons. Puis nous aurons une discussion autour de la santé, ce que la loi propose et ce qui existe en réalité en prison. Puis nous terminerons par l'agenda, où vous pourrez découvrir quelques bonnes adresses. L'émission sera entrecoupée de musique. Nous entendrons entre autres du hip-hop expérimental lyonnais pour aller jusqu'à du punk rock brésilien. Il y aura une rediffusion de cette émission le jeudi 11 juin. À 12h et une autre à 17h. Bon, ben voilà, bonne écoute à tous et à plus. Alors.
Donc moi je vais commencer. En fait, si vous êtes des fidèles auditeurs de Radio Dio, le numéro 0, ouais, on avait déjà parlé en fait, du 23 au 29 juin, il va se dérouler donc du côté de Calais, donc dans le nord, pas de Calais, un camp No Border, mené conjointement par des militants français et belges. Et des gens du No Border anglais. Donc en gros, un camp No Border, qu'est-ce que c'est? Bon, comme son nom l'indique, c'est un camp contre toutes les frontières. Mais pas que. C'est surtout un espace de partage d'infos, de compétences et d'expériences pour mettre en place des actions contre le système des frontières. Donc ça a lieu, je crois, depuis à peu près les années 90, un petit peu partout dans le monde. C'est pas annuel, parce que je crois qu'il y en a dans très peu de temps aussi en Grèce. Mais moi, je me suis arrêté justement sur celui de Calais. Alors, d'abord, pourquoi Calais? Donc, c'est avant tout la ville symbole du tout frontière, pour différents exemples. Déjà, la première chose, c'est une frontière visible et fortement contrôlée. C'est un important nœud migratoire en Europe. Donc, en gros, c'est un goulet d'étranglement, ouais, un carrefour un passage, en fait, obligatoire pour rejoindre l'Angleterre. Donc, différentes nationalités sont présentes. Des Afghans, j'ai regardé un petit peu sur Internet, donc des Afghans, des Kurdes, Irakiens, Iraniens, donc qui traversent une partie de l'Europe et qui restent bloqués, justement, à Calais et qui errent en permanence sur Calais et sur une grosse partie de la frontière du nord de la France. Donc voilà, après, il y a énormément de tensions entre des opposants à l'immigration et les militants, que ce soit les militants présents ou simplement les personnes qui aident ces migrants. C'est aussi un lieu de non-droit où il y a énormément de violences policières. Je peux que vous inviter en fait à aller voir toutes les vidéos ou les témoignages qui relatent ces faits sur Internet. Et que ce soit sur Dailymotion, je fais de la pub, mais ou YouTube, mais des trucs qui valent le coup. Et c'est aussi pour les militants la nécessité de lutter de façon organisée et transnationale contre les frontières, pour la liberté de circuler et contre l'enfermement des étrangers. Donc l'utilité d'un tel camp, c'est surtout de mettre en lumière la situation des migrants à Calais et dans le nord de la France, de construire des liens avec les différentes communautés de migrants et les personnes qui peuvent les aider, contribuer à développer justement le lien entre les groupes qui aident ces migrants et les militants occasionnels, et avant tout de créer un mouvement radical justement contre les systèmes de contrôle qui nous divisent, papier sans papier, et surtout aussi de défier les autorités qui sont présentes sur le terrain. Donc voilà. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Je suis en train de réfléchir. Oh, oui, en fait, les personnes qui sont investies dans ce camp No Border expliquent que Calais est une frontière majeure, en fait, mais c'est quand même une frontière interne. C'est-à-dire qu'on est déjà au sein de l'Europe. Et c'est une partie visible de ce contrôle, mais pas que. C'est-à-dire que depuis les années à peu près 2000, on est en train de créer en Europe une Europe forteresse. Et on externalise ses frontières. C'est-à-dire que l'Europe met en place une politique de répression au-delà en fait, de ses frontières géographiques. Donc, c'est-à-dire qu'elle paye en fait, des pays qui vont de l'Ukraine jusqu'au Maroc pour effectuer donc, à sa place des patrouilles frontalières et du travail de prévention face à l'immigration. Bon, je ne sais pas si c'est clair. En gros, on est en train de voilà. En gros, le barblé, on a l'impression qu'il est de plus en plus épais et qu'il s'étend jusque des frontières marocaines, enfin toutes les portes de la Méditerranée. Et c'est un fric, je crois, assez monumental, justement, balancé par l'Europe pour faire face à ça. Donc voilà, je peux conclure aussi par les revendications des gens investis. Donc évidemment, c'est la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous. Et en finir avec les frontières et les contrôles migratoires. Et donc je vous invite, je ne sais pas du tout si au départ de Saint-Etienne ni Lyon, s'il y a des possibilités de covoiturage. J'ai farfouillé sur internet, je donnerai deux sites importants. Et simplement dire justement, donc ça se déroule alors du 23 au 29 juin, il n'y a pas de programme prédéfini. Ça se fera donc à la contribution de chacun, les motivations de chacun et chacune. Simplement le samedi 27 juin, en fait, il y a une grande manif transnationale pour la liberté de circulation, qui part, je crois, à 10h du phare de Calais. Je connais pas Calais, je peux pas aider à le phare, mais certainement bord de la mer. Et donc voilà. Donc si
bravo.
Si vous voulez plus d'infos, donc le plus intéressant, c'est d'aller directement sur le site de Calais No Border. Donc c'est http://calaisnoborder tout attaché. Donc c'est calaisnoborder.eu.org. Ou sinon, je crois que j'ai un autre site que j'ai noté, c'est http://dissidence-nordiste.org. Donc je pense qu'il faut être nombreux et ils ont besoin aussi d'un soutien financier. Et je suis...
Matériel aussi.
Matériel, ouais. Et j'ai l'impression, aux dernières nouvelles, que ça se ferait plus ou moins... Ils ont des difficultés, je crois, pour avoir le lieu de leur campement. Et je pense que ça se fera de manière illégale. Certainement, en fait, parce que la préfecture et toutes les instances dirigeantes refusent justement ce type de campement. Voilà, j'ai fait le tour.
Ok, et à la fin de l'émission, on reviendra sur le même genre de sujet, mais plus localement, c'est-à-dire on vous parlera un peu du collectif Sans Papier de Saint-Étienne. Et moi, je vais enchaîner avec une petite citation que vous avez peut-être entendue ça et là. Les détenus sont nourris, logés et en plus ils ont la télé. Genre la prison, c'est l'hôtel 4 étoiles. On a déjà parlé de la télé dans cette émission. Et c'était souvent pour dire qu'elle avait aussi servi à amener la paix sociale en prison et à abrutir les prisonniers. C'est pas nous qui le disons, c'est des prisonniers entre autres qui l'ont dit. Et je crois que la personne dont on va vous passer une interview tout à l'heure, elle dit le même genre de choses. Mais bref, là, on va parler de la télé d'une autre manière. C'est un monsieur qui s'appelle François Corbert, qui a fait genre 25 années de prison, je crois, à peu près, et qui est sorti là début avril. Et lui, juste avant de sortir, il a entamé un recours contre l'administration pénitentiaire, une plainte contre le parquet de Paris, non, une plainte auprès du parquet de Paris contre Monsieur Claude Darcourt et autres, etc., etc. Et en fait, lui, son cheval de bataille, c'est de dire, on n'a pas le droit d'acheter une télé en prison, on nous impose de la louer et c'est super cher au mois pour quand t'es prisonnier, t'as pas beaucoup de revenus, t'as pas beaucoup d'argent. Et moi, je veux pouvoir acheter ma télé en prison parce que c'est du racket, il appelle ça du racket. Et voilà. Et il a trouvé un article, qui est l'article D444, qui dit en gros qu'on peut avoir, on peut acheter une télé si on veut, enfin, on peut se la procurer, bref, il joue sur des trucs juridiques. Mais en gros, lui, son truc, c'est de dire qu'il y a une espèce de magouille un peu et qu'on fait du fric sur le dos des prisonniers en les forçant à louer des télés alors qu'ils voudraient avoir le droit d'en acheter. Bon, il a déposé des recours et des plaintes, il est super organisé. Et il dit que si d'autres détenus veulent faire pareil, ils peuvent le faire. Voilà. Et que pour faire ça, il faut d'abord demander au directeur de sa prison « Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais acheter une télé, s'il vous plaît, par le biais de la cantine ?» Et s'il refuse, ensuite, il faut faire une procédure. Voilà. Donc, en fait, je ne vais pas vous donner plus de détails. Mais je ne sais pas si jamais ça vous intéresse de faire ce genre de procédure. Ou d'avoir plus d'infos sur ce que lui il a fait, vu que c'est tout sur internet, c'est sur le site de l'association Bon Public dont on vous a déjà parlé, donc c'est http://prison.eu.org, et vu que toutes les infos sont sur internet, si vous n'avez pas accès à internet, ce que je vous propose c'est simplement de nous écrire. Donc voilà, émission Papillon, chez Radio Audio, 14 bis rue de Roubaix, 42 000 Saint-Étienne. On vous redonnera l'adresse à la fin de l'émission. Et voilà, bref, si vous voulez des infos, des conseils pour cette histoire. Mais ce que je voulais dire de manière plus générale, parce que moi, je vous avoue, personnellement, je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment intéressant comme combat ? Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce monsieur, donc François Corbert ou Corbet, je ne sais pas, K-O-R-B-E-R, il a donc fait 25 ans de prison, et en prison, il est devenu un peu un taré du droit. Il a correspondu avec plein de juristes, il a fouiné dans les codes pénaux, les textes de loi, etc. Et voilà, il a décidé de ne pas se laisser faire. Il est à l'OIP, dont on a déjà parlé, il fait partie de l'association Bon Public, dont je viens de parler. Et en 94, il a obtenu l'arrêt Corbert, pardon, qui a été rendu en cour criminelle de la Chambre de cassation. Et c'est un arrêt qui rend possible pour les détenus de s'opposer à la révocation de la libération conditionnelle. C'est-à-dire quand tu es en conditionnel et qu'on te dit c'est fini la conditionnelle, tu retournes en tôle, et tu peux t'y opposer. Depuis que ce gars a fait toutes les démarches, en fait, il cherche les failles juridiques, en gros. Et en 2004, il a aussi réussi à faire venir un huissier pour constater qu'il faisait froid dans le mitard de la prison de Rion. Donc voilà, en fait, c'est un gars qui s'est bougé lui-même pour apprendre le droit et se défendre avec les failles un peu de la justice. Et enfin, maintenant qu'il est sorti, il a créé une association qui s'appelle Robin des Lois, et dont le but est d'aider les détenus dans leurs démarches juridiques et tout ça. Et voilà, donc juste, il n'y a qu'une adresse email, c'est robindeslois, tout attaché, @gmail.com, et il n'y a pas d'adresse postale, donc pareil, si vous avez envie de le contacter ou d'en savoir plus, vous pouvez nous écrire par la poste, on rappellera l'adresse à la fin, et voilà, on vous fera passer les infos, on vous mettra en contact avec lui. Un peu de musique maintenant, Olga ?
Allez, oui, bien sûr, on va écouter Rature, donc, qui est un groupe lyonnais. C'est du hip-hop expérimental, je crois, et c'est fort sympathique, c'est un peu spé, mais bon, ça vaut le coup de, d'écoute, en fait. Voilà, bonne découverte et rature, donc. Working on the sound on the wild down, the Yagavan, a wacky one or two, gave it no matter what. Working on, working on, working on. Working on the sound on the wild down. Working on the sound on the wild down. Working on the sound on the wild down. Wacky, 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 working on the sound on the wacky. Why the break it now? And wacky, man, I'll see the way to the key. I'm making this a chain of making rain and wacky. And I'm running to the water, this is the city way to key. I made the town of water, they run and make a kiki. And where the selling day, and the wacky, kiki, kiki. And where the sound of water, they run and wacky. And where the sound of the one and wacky. Wacky to the sound of the one and wacky. Where the sound of the one and wacky. Where the sound of the one and wacky. What did the sound and I'm wanna walk it? What did the sound and I wanna walk it? What did the sound and I wanna walk it? What did the sound and I wanna walk it? What did the sound and I wanna walk it? Where? Where's the city down and I wanna walk it? How the walls in the sound and I wanna walk it? Where the beat of my land and around the sound? Where did the sound and I wanna the sound? Where did the sound and I wanna the sound? Where did the sound and I wanna the sound? Where did the sound and I wanna the sound? Where did the sound and I wanna the sound? Where did the sound and I wanna the sound? Where did the sound and I wanna the sound? And the wacky wacky loud, where did say the crowd? And where did they kind of read the state of my house? Where did the show when it came to wacky 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 out? Wacky there, where did say? Wacky wacky oh, where did they run them all? Wacky wacky out, wacky yeah, wacky die. Wacky wacky home and the rest of the sound wild ball. Can't wait, can't run the day wild ball. Am I your words of the day wild ball? And where did the money get, where did say wrong? Wonder with the sense of the marquee. Wonder did 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 the sense of the marquee.
Après cette petite musique, on va diffuser maintenant une interview qui prend la forme d'un parcours de vie d'une personne, enfin d'une certaine période. Une personne donc qui est ancienne toxicomane, atteinte du VIH et qui a connu la prison à plusieurs reprises. Cette personne, qu'on tient d'ailleurs à remercier et à qui on passe un grand bonjour, a souhaité rester anonyme. C'est pour ça qu'on parle de dame, de personne. Voilà. Pour présenter un peu le contenu de l'interview, il est question d'accès aux soins, du regard porté en prison et en garde à vue sur les personnes toxicomanes et atteintes du sida. Alors ça, c'est plus sous la forme d'alerte donnée. Et puis il est aussi évoqué le travail en tôle, le fait de ne pas avoir d'argent à l'intérieur, mais aussi ce qui a changé en prison ces dernières années, et d'autres choses encore. Alors avant de lancer cette interview, on voulait juste dire que le son il est pas très très bon, et que du coup, elle a écouté avec attention. Voilà, on s'excuse du son, mais...
Ouais, alors, plus que jamais, restez rivés dans vos canapés.
Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ?
Bon, j'ai 48 ans, je suis stéphanoise, et puis je voudrais parler un petit peu de ce qui se passe actuellement, sur des choses que j'ai vécues, que d'autres personnes ont vécues, et que d'autres vont vivre. Donc, premièrement, moi j'ai une alerte à donner pour la garde à vue, surtout pour les gardes à vue. Quand vous rentrez en garde à vue, on vous amène un médecin, on peut bien voir quel médecin. Déjà, vous avez l'étiquette de toxico, donc on ne regarde pas pareil. On va dire, c'est là, va nous casser les pieds, va nous faire chier toute la nuit. Déjà, t'es mal vu, t'as l'étiquette par les flics. Hein. Donc après, t'as le médecin, puis voilà, tu discutes avec le médecin. Tu prends par exemple tant de dosage de méthadone ou même de subutex. Et bien, tu ne le donnes pas le lendemain.
C'est quoi méthadone et subutex ?
Méthadone, c'est de la morphine. C'est de... ça remplace l'héroïne, c'est un produit de substitution.
D'accord.
Qui est délivré tous les 14 jours. Qui est honnête, mais pour eux, du moment que tu en gardes à vue, tu es une tricheuse, tu es une toxico, tu es une menteuse, donc ils disent que tu triches sur les doses. Et si tu tapes 3 nuits de garde à vue, plus une journée, c'est long dans ta vie. Et quand t'as rien, et ben c'est grave, quoi. C'est pire d'être un chien, moi je dis.
Parce qu'au début, en fait, ils demandent, et après, finalement, ils donnent pas les produits.
Ils donnent pas. Donc, bon, pour la substitution, ils ne le font pas. Mais c'est pareil, quand tu es plus jeune, tu touches à la cam, tu te tombes, tu te fais lever parce que, bon, tu as fait une connerie. Tout de suite, et ben, pendant 3 jours, parce que les stupéfiants, c'est pas 48 heures de garde à vue, c'est 4 jours. Donc, tu n'en peux plus, au bout de 3 jours, tu pleures, tu vas aller en prison. Tu n'as même pas un de somnifère. Et quand ça fait 15 ans que tu touches à la cam, c'est dur, quoi. Tu pues et tout, tu sais plus où te mettre, quoi. Et ça passe très, très doucement. Donc, moi, je dis que c'est prendre les humains pour des chiens, quoi.
Parce qu'il y a un regard particulier, par exemple, des flics, oui. Quand on est toxicomane, où ils sont...
Ouais, certains flics, certains, pas tous. Bon, t'as des inspecteurs, ils vont être cool. Mais t'as des bleus, ils n'ont rien à voir. Et puis surtout, les petits jeunes, quoi, ils se la pètent un petit peu trop, moi, je pense. Hein. Bon, j'ai connu pas mal de commissariats, j'ai connu plusieurs prisons. La Talou, bon, ça va, c'est pas une prison. Il y a 25 détenus. Par contre, j'ai connu Fleury, j'ai flippé. J'ai tombé dans une faune. Dans la cour, il y avait au moins 500 personnes, je ne comprenais plus rien. Puis après, j'ai eu la chance, j'ai déjà transféré sur Rouen. J'ai connu la prison de Rouen, la prison de Nîmes.
Ça, c'était il y a quelques années.
Ouais, ouais.
Parce qu'en fait, à la Talou, tu étais allée 2 fois.
Non, je suis allée 3 fois.
3 fois.
3 fois. Lyon, 2 fois.
Et puis après, à Nîmes.
Rouen.
Lille.
Lille, ouais. À Los. Là, c'était une grande prison quand même. Que des tox, que des tox. Mais pareil, j'ai fait ma place. Et voilà, moi je voulais dire que la prison, t'en sortiras toujours si t'as de l'argent. Mais si t'as pas d'argent, eh ben, tu vas ramer, tu vas être à la disposition des autres. Tu sais, quand t'es tout seul dans ta cellule ou que t'as des collègues qui reçoivent des mandats et t'as rien, t'as intérêt à être cool parce que sinon, il faut que tu fasses ta place. Hein. Moi, j'ai jamais eu de problème, j'ai été indigente pendant plusieurs fois que je suis tombée, je sais ce que c'est. Mais je suis tombée sur des filles, des bonnes filles. Donc, quand il n'est pour elle, quand il n'est pour moi. Il faut avoir l'échange, faut pas être vicieuse, quoi.
Ouais.
Et ça, maintenant, tu ne trouves plus dans les prisons.
Il y avait plus de solidarité avant,
non? Oui.
On en parlait un peu là-dedans.
Ah oui, moi, la dernière fois, j'ai pas pu toucher mes sous. Bah, je suis restée pendant 15 jours sans clope. Je me suis fait des paniers comme ça parce que je connaissais une fille. Qu'ailleurs, non, j'avais pas de mandat pendant plusieurs mois. Mais j'ai jamais été en manque de cigarettes, quoi que ce soit. Hein. Je suis tombée
avec le quotidien.
Voilà. Mais cette fois-ci, j'ai vu pour une feuille ce matin. Pour une feuille à rouler. Après, une autre, elle me dit, c'est la matinée qui me l'a passé. Après, elle me dit, mais c'est pas vrai, c'est parce qu'il y a un mec qui vient de rentrer. Je me vois mal en train de donner des clopes à des détenus. Et je sais qu'il la tenait comme ça parce qu'elle était suicidaire, j'ai vu.
Où t'as pu travailler par rapport à un système d'argent?
J'ai fait des épingalages. Puis après, ouais. J'ai dit non, je refuse. Alors, au début, ils m'ont dit, bon, ben, vous allez être indigente. J'ai dit, ben, oui, je reste indigente. Ils m'ont mis du travail en cellule, je ne peux plus rentrer dans ma cellule. 25 centimes de carton. J'ai dit, moi, je ne travaille pas dehors, je ne vais pas travailler dedans. Non. Mais après, j'avais la puce qui m'envoyait des sous, donc ça allait. Et avec moi, j'avais une fille enceinte, et ben, je continuais un paquet de clopes, j'en clignotais un pour elle. Et après, je l'ai retrouvée sur l'île, et j'étais en malade, en moins qu'elle ne m'a même pas dépanné. Après, je l'ai revu, je l'ai bien attrapé. Elle crevait, j'ai dit, tu crèves. Alors, au début, il disait à son copain, ouais, elle m'a bien aidé, puis après, je vais la voir, son mec, il dit, laisse. Je dis, malade, hein. Ah non, je peux pas, et tout, j'ai dit, sale garçon. Elle a fait 2 gamins dans. Elle habite peut-être seule, du coup, avec son mari, avec son copain, dans les trucs de chantier, tu sais, les petites baraques en fer. Tu te rends compte, Aline, vit là-dedans, l'hiver. Ouais. 2 gosses qu'elle faisait là-dedans. Elle les posait, puis. Et je l'ai dépanné. Je l'ai pas lâché. J'ai rendu ce qu'on m'avait donné. Hein. J'ai pas été bête aussi, parce que maintenant, si t'as une fille, ils vont dire, ouais, t'es sa pigeonne et tout, t'es dans des mentalités maintenant. La petite racaille. T'es pas méchante, mais ça, c'est la racaille.
Et quand tu parlais de tout à l'heure des cartons, c'était ça qui t'avait fait dire que tu voulais pas travailler, t'avais rempli la cellule de dimension.
Moi, après, je suis rentrée de la cour, j'avais demandé de travailler en cellule. Je sais que c'est des cartons, mettre des grattoirs, tu sais, des trucs pour la vaisselle, pour gratter, dans des sachets, puis les agrafer comme ça. Je suis rentrée, je pouvais même pas rentrer dans ma cellule, il y avait des cartons, t'en allais faire je sais pas combien par jour, je dis, oh, ça va pas. Puis la chef, elle est vers moi, elle me dit, je suis venue me voir 2 minutes, madame. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, elle me dit, vous refusez de travailler. Je dis, oui, elle me dit, je vais le noter, ça va passer au je sais pas quoi. Je dis, mais le noter là, je dis, moi je travaille pas dehors, je vais pas travailler dedans, une misère. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Après, l'autre qui était, celle qui était enceinte, elle voulait le faire. J'ai dit, écoute, tu restes tranquille, je vais pas être... Déjà, t'as pas de passe, c'est bon, quoi. Pendant toute ma vie de travers, après, c'est passé, je me suis fait, quoi.
Parce que c'était un gros rythme, en plus, ils imposaient une grosse cadence.
Cuisine, ouais. Moi, je sais pas, combien de trucs, fallait la journée, quoi. Puis t'as mal de le faire des sous, parce qu'ils ont pris plusieurs années. Puis il y en a, nous, une fois, ils étaient venus chronométrer à la talo. T'en avais deux, ils voulaient faire bien. Ben, à cause d'elle, le rythme, il était deux fois plus. Après, on leur a dit, tu te calmes, ma grande, on va travailler tranquille. Hein. Anime aussi, mais les filles, on les a vues, ils disaient, ouais, mais moi, je pars pour longtemps, faut que je bosse et tout. Dis, ouais, mais tu nous fais chier à nous, qu'on reste pas longtemps, quoi. Donc, elle calme un petit peu, mais une fois, avec le chronomètre, carrément. Hein. Le mec disait, deux secondes, je sais plus combien de minutes, là, pour faire, je sais pas quoi. Et l'autre, moi, c'était pour voir les filles que j'avais à l'atelier. Pour échanger un petit peu des trucs, ça. Puis là, j'ai même pas eu envie d'aller les voir, ces filles. Ah non. Pas que je vieillis, peut-être. Mais je m'entends plus avec ces gamines. Je pourrais pas. D'abord, pas. Les gens, c'était pas comme maintenant. Bah. Moi, j'ai toujours eu de la chance avec les gens.
Ouais. C'est que c'est quoi qui avait changé exactement?
La mentalité.
La mentalité. Aussi. Mmh. La dernière fois, on avait parlé de plus spécialement du VIH en prison. Et en gros, par rapport aux matons ou aux autres filles ou aux médecins, ça se passe comment? Qu'est-ce que tu as pu voir, toi?
Faut pas le dire.
C'est vraiment cette ambiance.
Ah ouais, faut pas le dire. Si tu sais, si les filles le voient, t'es carrément sur le côté. Moi, je l'ai vécu. Il y en a une qui a pas voulu me donner une cigarette parce qu'elle a vu les médicaments que j'avais. Il a fallu que je me branche avec elle. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me prendre la tête? Et après, j'ai dit, quand même, les matins, ils pourraient mettre autrement les médicaments. Parce que la fille, elle connaissait. Médicaments, jamais, elle le connaissait.
Ils balancent les
matins. Ouais, comme ça, c'est sur les plateaux. Et moi, je l'ai vécu avec la fille. Je t'ai dit, tu l'as appris quand elle était en prison. Là, ça m'a fait... Même pas, ils allaient lui dire bonjour au matin.
Ouais.
Ouais, elle s'était isolée, la fille.
Et même maintenant, mecs, encore, en entre...
Bien sûr, mais c'est encore pareil. Pire qu'avant, je pense.
C'est encore pire qu'avant.
Encore pire qu'avant. Ils ont une mentalité encore pire qu'avant. Oh oui, c'est méchant maintenant. C'est l'argent. Moi, je suis tout seul, perso. Et pourtant, quand t'es en prison, faut que tu fasses avec tout le monde. Si l'autre, tu l'aimes pas, bah tu... Hop. Et moi, je me défoule au sport, moi. Beaucoup de sport. On faisait des matchs et tout. Mais moi, j'étais jeune, c'est pas pareil. Que je suis tombée, j'étais plus vieille. Ça m'a choqué. Je sais pas comment j'ai fait les années, quoi. Enfin, les années, j'ai pas fait 5 ans, mais...
La dernière fois, ça t'avait paru beaucoup plus long.
Oh oui. Un mois, j'ai cru que je t'ai dit que je faisais 6 mois, je me dis franchement. C'était long. Regardez les heures et tout. Putain.
Bah, surtout si tu descendais plus en promenade, plus de.
Regardez des connards qui piaillent.
Ouais.
Qui se branchent pour une cigarette, pour une feuille à rouler. Non. J'ai galère, moi j'ai pas eu mes sous tout de suite. Hein. On aurait dit un mois, on aurait dit que ça faisait 6 ans que j'attendais. Parce qu'en plus, là-bas, maintenant, à notre époque, c'est pas tu veux me dépanner, je te rends demain. C'est pas non, 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 non. À la rigueur, tu vas me dépanner, mais tu vas rendre le double. Et là, j'avais rien. Mm. J'ai dit, cette mentalité. Hein. Puis même mes copains, je connais des mecs qui en ont fait plusieurs, ils m'ont dit, ça a changé. Même chez les mecs, parfois. Puis les femmes, c'est méchant, les femmes, entre elles, attention, c'est le vice. Hein. Son côté. Le matin, quand tu prends la méthadone, ils t'isolent des gens. Tu vois, ils te font monter par exemple à la talo, ils te font monter au premier pour aller chercher ton méta, pour pas faire part des gens. Mais par contre, c'est pour t'attrir la balance devant tout le monde. Et là, t'es crié. Parce que t'en as bon que t'avais des gens séro. Bon, à l'époque, moi, ils connaissaient pas trop, mais il y en avait une qui était malade à Nîmes. J'entendais comme ils parlaient sur elle. Faut pas l'approcher. Attention.
C'est qui disait ça?
Les filles.
Les filles.
Elle a appris pendant qu'elle était incarcérée, la fille.
Parce que ça se passe comment en fait? En général, il y a une sorte de bilan médical au début.
Ouais, quand tu rentres, on présente un bilan, en principe.
Il y a beaucoup de gens qui l'apprennent à ce moment-là en fait.
Quand tu vois les mecs qui sortent plus ou les filles qui sortent plus de cellules, il y a un problème. Hein. Elle commande un parano, elle commence à nettoyer sa cellule à la javel, ça brillait sa cellule. Tu passais devant, tu prenais la javel dans la figure. Personne n'y parlait. On me disait de pas parler avec elle, qu'est-ce que tu fais? Et moi j'ai eu la chance parce que moi je suis séro depuis 84 normalement. Excusez-moi. Quand je l'ai appris, j'ai fui. J'ai eu peur. Donc je me suis fait contrôler, on m'a dit vous avez quelque chose dans le sang, mais on ne sait pas trop quoi. Et après pendant 12 ans, je n'ai pas été malade une seule fois.
Tu l'as appris en prison?
Non.
Non.
Non, non, je l'ai appris parce que je tombe enceinte. Et après j'ai fait un retour de couche, j'ai perdu mon bébé. Et c'est là qu'ils m'ont dit, vous avez quelque chose dans le sang. Donc moi je suis partie, j'ai fait toute la France. Je me suis fait contrôler une fois. J'ai pas eu mes résultats. Non, j'étais pas séro, j'ai vécu comme une fille non séro. Pendant des années. Des années. J'avais ma vie, je vivais à l'hôtel, j'ai mon petit business. Mais je côtoyais pas des trop toxicaux. Bon, je côtoyais les toxicaux quand j'allais chercher. Puis je quand même, c'est obligé. Puis quand tu es vraiment accro, après tu vis avec. Et que le soir, tu ne vois pas. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus sauvage, quoi, la prison.
Et justement, la dernière fois, on parlait de cette histoire de santé en prison, etc. Qu'est-ce que toi, tu as pu vivre ou observer chez les autres par rapport à cette histoire de la santé? Est-ce que, par exemple, le secret médical était un peu respecté ou c'était...
À la prison.
Quelle ambiance c'était, en fait?
À la prison, ils ont surtout la pilule de la sagesse. Ils t'en suivent.
Ouais.
T'es un zombie. Moi, j'étais un zombie. Ma mère, elle m'a pas reconnue. Tous les jours, j'allais voir l'infirmière. Je demandais une dose de plus, J'étais comme ça.
C'était des sortes de calmants
ou... Somnifères, c'était du... Comment ça s'appelle? Ils ne les donnent plus parce qu'il y a eu trop d'overdose avec ce cachet.
C'est quelque chose qui ont su, quoi.
Rupnol. C'est que moi, je connais beaucoup de gens qui ont fait Rupnol et héroïne, ils sont morts. Et ça, là, ils pesaient une fiole, quand tu l'avais le matin, tu sors de prison, tu t'as pris 20 kilos. T'as remarqué, tous les gens qui sortent de prison, ils ont grossi. T'as remarqué? Tu remarqueras.
C'était dans quelle prison, ça, qui donnait la fiole?
Là, t'as l'eau, au début, ils donnaient la fiole. Partout, ils la donnent encore. Hein. Le soir, ils donnent tes médicaments. Mais quand j'étais, moi, c'était plus fort. Quand je suis tombée en 85, 86, c'était plus fort, les cachets. Enfin, ça remplaçait pas la cam. Bon, après, quand je suis tombée bien malade, ça m'a permis d'arrêter la cam. Puis, jamais retouché, quoi. Puis, donc, je me suis mis la méthadone, au Subutex, pendant plus de 10 ans. Puis, j'ai commencé à le bévier. À shooter jusqu'au jour où on m'a dit, on va te couper une main. Donc, j'ai arrêté. Donc, j'ai pris la méthadone. C'est un truc dégueulasse, mais enfin c'est de la drogue pour les pauvres, moi. C'est peut-être une fiole, mais quand tu l'as pas, t'es malade. Comme la drogue, pareil.
Par exemple, les produits de substitution, est-ce que c'était donné un peu discrètement?
Non,
ou
pour un dossier, attention, tu vois, il y a un psy ou quoi, ce n'est pas comme ça. Si, pour dormir aux en habitude, tu fermes ta gueule quand tu dors. Et puis même chez les mecs, c'est pareil, ils les en sucrent. Tu remarqueras, tous les gens qui sont restés plus de 6 mois en prison, ils ont gonflé. Moi, je dis souvent, il t'a sorti, t'as été à la maison de repos. Hein? Moi, j'ai pris 20 kilos.
Ouais.
Je fais ma grossesse là-bas, moi. À la talon. J'ai grossi là-bas, mon bidon, elle a grossi là-bas. Je tombais, j'étais enceinte, je ne savais pas.
Tu l'as su quand tu es sortie de prison?
Non, je l'ai su pendant que j'étais en prison.
Et après, il y avait un bon suivi médical?
Puis j'avais ma belle-sœur qui était médecin, donc ça allait, quoi.
Tu t'arrives à voir un médecin souvent à la
télé? Non, je l'ai vu le troisième mois, je ne l'ai pas passé là-bas. Ils ne m'ont pas fait passer, ils m'ont fait passer le sixième mois.
Que le sixième mois?
Le sixième mois, et un jour, on était à l'atelier, je les épingle à linge, j'ai eu un carton assez lourd. J'ai fait une hémorragie, il me remonte dans la cellule. Il m'entendait, il m'a dit, allonge-toi, je vais te regarder. J'ai dit, mais il n'était pas médecin, vous n'êtes pas médecin pour me regarder. Puis c'était le temps pour remonter dans les cellules. Ben, les filles, elles m'ont vu dans cet état, elles ont dit, elle va perdre son bébé. Et moi, c'est la première fois que j'étais enceinte, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Même quand il a bougé, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Tu sais, quand tu ne connais pas, puis tu n'as personne pour te... Donc les filles ont dit, bon, mais s'il n'a pas un médecin, on ne rentre pas dans les cellules. Puis après, bon, il y a eu une fille qui a pris un rapport. Bon, après, c'est la loi, tu montes et tu fermes ta gueule, quoi.
Dur de voir un médecin.
Ouais. Ah ouais, j'ai pas vu de médecin. Donc moi, je me suis levée, j'ai été dans la cour, ils en ont pu parler. Par contre, ma mère est venue derrière, elle a passé à ça, mon même belle soeur. Elle dit, qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, bien accroché, je te le dis. Puis ça te fait bizarre, t'as pas l'habitude. Puis je te dis, même le premier temps, quand j'ai senti mon ventre coucher, je dis, qu'est-ce que tu m'as fait? Parce que j'ai grossi d'un coup. Et je l'ai appris pendant que je suis en prison. Parce que moi, j'avais mes règles jusqu'à 7 mois, 8 mois. Je sais pas combien quand ils voulaient, mais ça fait bizarre. Je suis tombée, j'étais en prison, enceinte de 2 mois déjà, je ne savais pas.
D'accord. Et par rapport à l'extérieur, c'est pas un suivi tous les mois en prison, quoi?
Non. Bah non.
C'est vraiment juste de temps en temps.
Bah, t'es comme en dehors, le 3e mois, le 6e mois, et voilà. À part si maintenant, je sais pas comment ça se passe. Hein. Mais moi, je sais qu'à une époque, quand j'étais, ils n'avaient pas l'habitude de voir des filles enceintes à Saint-Thier. Il y a des soeurs Catherine, elles sont passées, elles voulaient me faire sortir, hein. J'avais de la peine. Maintenant, c'est plus quoi.
Hein. Est-ce que t'as accouché en prison?
Non, je suis sortie. Sorti, j'ai accouché à Firmini. Mais maintenant, je sais pas, moi, une fois que j'étais à l'Atalo, il y avait une petite Yougoslave qui avait 15 ans. Elles l'ont transférée sur Lyon parce qu'à Saint-Étienne, ils n'ont pas tout pour les bébés. Donc tu vas à Lyon. Puis c'est mortel parce que c'est comme les hôpitaux dans la prison, c'est pareil. Alors, t'es dans une cage et tu restes des journées entières. Tu vois circuler les mecs et tout, tu sors pas.
Quand on est enceinte, quand une fille est enceinte en prison?
Non, quand t'es malade, c'est que t'as un problème.
Ouais.
Psychiatrique ou c'était pas bien, ils t'envoient dans la prison, dans un hôpital dans la prison. Et ben à Lyon, c'est une grande salle avec des lits, une cage, et t'es dedans, tu restes 15 jours, 3 mois, 2 mois, Tu sors jamais. Tu sors juste pour voir ton avocat, même pas de cours, rien du tout. C'est pas un hôpital, ça. Moi, j'ai vu des mecs qui mouraient à côté de moi. Putain, ils disent, mais vous n'allez pas lui mettre les notes, il pèse 40 grammes. Mais si, si, on est obligé et tout. De toute façon. La dernière fois, j'ai vite compris, j'ai vu que ça avait changé. Les mentalités, c'est devenu sans pitié. Chacun sa peau.
Entre la première fois où tu allais en prison et la dernière.
C'était bien, je peux dire que c'était la colonie. Mais à Nîmes, on rigolait comme si on était en vacances. Des fois, on était jeunes. C'était pas pareil. Maintenant, moi, je t'ai dit, je suis descendu une fois en cours quand j'ai tombé dernièrement. Je suis plus redescendu. Pendant un mois, je suis resté dans ma cellule.
En cours de promenade.
Je suis pas descendu.
Ouais.
Ces filles, oh là là, qu'est-ce que...
À cause de quoi?
Des gens bizarres, des filles bizarres. Moi, je dis ça, des Johnny, là. C'est des bandes de grandes gueules, là. Je dis, que c'est ces filles, que c'est ces mentalités qu'elles ont. Une qui était suicidaire, alors... 17 ans, 15 fois qu'elle tombait. Alors, les matins, tu les tutoies, donc il n'y a plus de respect. Moi, j'ai connu, on les vous voyait. Maintenant, tu les tutoies, qu'est-ce qu'il y a de respect? Elles ont 15 ans, elles sont toujours folles, ben, elles tapent sur les matins. Parce qu'il n'y a plus de mitard chez les filles maintenant. Ils l'ont enlevé.
À la talo.
Ouais. Avant, il y avait un mitard.
Ouais.
Ils l'ont enlevé maintenant. Les filles les attachent dans la cellule. Dans leur cellule. Attachées au pied.
Les filles qui auraient mis le mitard avant, ils les attachent maintenant.
Ils les mettent, ils les attachent à leur lit. Moi, j'ai vu que c'était trop. J'ai dit que cette prison, ça a bien changé. Et puis, j'ai touché un petit peu le RMI. C'est une instance ici qui m'a aidé un petit peu la puce. De Lyon, on a touché le RMI.
C'est quoi la puce?
La puce, c'est une association qui était vers les terreaux à Lyon. Bon, c'est des années qu'il suivait en tant que toxico et tout, tu sais. Moi, je m'aimais bien le directeur. Chaque fois, je venais, je demandais, c'est en francs, je disais, donne-moi 200 francs pour que j'achète un paquet, s'il te plaît. Alors, le calcul, c'est que tu étais comptable. Tu l'as encore envenimé, tu l'as encore amadoué, il t'a donné 200 francs. Je dis oui, oui, oui. Donc il m'aimait bien, il voulait toujours m'aider, t'sais. Donc il m'a fait suivre mon courrier. Il a su que j'étais en prison, donc il m'a envoyé un mandat. T'sais. J'ai pas galère. Sinon j'aurais galère. Déjà la mentalité avait changé déjà, puis que les tox. Parce que les tox, on est souvent isolés. La famille t'a souvent oublié.
Est-ce que t'as vu des différences entre les prisons dans lesquelles t'es allée?
Ouais. Moi j'ai vu le nord, j'ai vu que la dérive, quoi. Que des tox. Que des tox.
À Lille?
Ouais. À Loos. La prison de Loos. Et c'est une prison, tu restes que... C'est pour ça que t'as beaucoup d'arrivants, c'est beaucoup bordelieux.
Et en tôle, c'était pareil, c'était vraiment la mentalité qui avait changé.
Ouais, ouais, ouais. La dernière fois que j'étais à la Talo, j'ai rien compris. Rien du tout. Il y avait pour que peut-être 10, 11 ans d'écart que j'étais pas retombée, mais alors j'ai rien compris. Quand j'ai vu qu'elle tutoyait les matons, qu'il n'y avait plus de mitard, que l'autre, elle tapait sur la matone, on lui disait rien. On leur disait qu'elle était en ensuite qu'elle cachait.
C'est quoi qui te gênait dans le fait de tutoyer les matones?
Parce qu'après, t'as plus de limite quand tu tutoies quelqu'un. C'est que là, elle tenait les clés, elle les faisait bien bouger, les clés, ça. Puis après 7 heures, t'as pas de femme qui rentre dans les cellules, c'est interdit. C'est une tentative de suicide, faut que t'attendes que les hommes y viennent. Moi, j'étais avec une épileptique dans cellule, personne ne voulait être avec elle. Je reste 6 mois avec elle. Mais toutes les semaines, je devais taper au moins. Elle me faisait des crises d'épilepsie, elle demandait 5 par semaine. Mais des grosses. Puis je lui mettais un truc dans la bouche et je tapais.
Et à partir de 7h du soir, les femmes n'ont plus le droit de rentrer?
Non. Pour qu'elles soient accompagnées avec un homme.
Donc ça veut dire que pour des gens qui sont par exemple malades la nuit, ça peut durer super longtemps?
Bah, faut que les mecs ils arrivent. S'ils travaillent chez les mecs par exemple, comme il y a des fois des problèmes de, comme partout, hein, de chômage, on va dire même chez eux, hein. Et ben le mec il travaillait chez les mecs, je sais pas, à ce moment il faisait la distribution de je sais pas quoi et tout. Pas le soir, mais je veux te dire, à 7h du soir, il n'y a plus personne, tu peux crever, quoi. Pourtant, ils vont pas arriver tout de suite. Puis des fois, c'est des alertes, des appels au secours, ils te connaissent après. Tu les connais, les suicidaires, après, les filles. Tu sais, quand ça crie, c'est pas trop grave, c'est coupé un petit peu, ou c'est pas méchant, quoi. Mais enfin, ça fait... C'est un drôle de... Moi, je sais que j'avais pas connu la prison comme ça, quoi. Franchement.
Est-ce que les premières fois où toi,
j'ai
tu
fait un mois, en prison, je faisais un an.
Les premières fois où, par exemple, toi, t'es allé en taule par rapport à la santé ou... c'était différent. T'avais quelqu'un, un médecin qui arrivait plus vite ou pas forcément, non.
Ouais, bah
ça
non,
a toujours été
non.
Pareil, ça.
Bah ouais, ça n'a jamais changé. Hein.
Ça n'a jamais changé. Ouais.
Je voulais décrocher à mon époque, c'était la psychiatrie. Hein. Oh, t'attends, suffit de cacher, c'est bon. C'est bon, là, quand vous dites ce qu'il y a, c'est le diable. Si c'est pas aussi bon, je dirais que ça ne cocherait pas. Hein. Et c'est le diable. Pour avoir des sous. T'as pas de sous, bah, tu prends la méthadone. Ou drogue de pauvre. Ouais, ça me rigole. Ça fait rigoler. C'est pas de rien. Tu connais?
Non.
C'est du TDT, tu connais pas? C'est un truc à Bellevue où ils délivrent la méthadone. Et... Ils font des visites psychiatriques, psychologiques, les gens qui sont à la rue, ils leur trouvent une adresse, une chambre où dormir. Quand tu rentres à Bellevue,
ouais.
T'as le bureau des entrées, maintenant il n'y a plus rien parce que c'est tout un or. Tu rentres, c'est sur la gauche, c'est dessous comme ça. Il y a la morgue et c'est juste là.
D'accord.
T'as les psys dedans. Ça fait des années que je le connais. Il me connaissait depuis que j'ai 17 ans, lui. Toujours vu dans la cam. Il me revoit, il me dit 20 ans après. Mais ouais, j'ai... C'est vrai que j'ai vu des petits jeunes la dernière fois, ça m'a fait peur. Complètement défoncé, tout la mer à côté, je sais, mais... J'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont me donner? Ils vont donner des cachets à mon grand. Madame, mais vous comprenez, c'est les flics qui m'ont dit d'amener mon fils ici. Fuyez vite, madame. Elle m'a dit, je vous écoute, elle est partie. Je dis, vous m'insultez, votre gamin. Parce que j'ai envoyé, ils venaient avec leurs parents, puis c'était complètement à côté de la barre, parce que j'étais donné trop de tranxènes, trop de trucs pour les... J'ai dit à la mère, je l'ai prévenue, je dis, voilà, insultez votre fils. Elle est partie.
Non, parce que c'est un peu ça, c'est toi.
Ah, bien sûr, bien sûr. Mais moi, jamais eu avec ça. J'ai toujours fui. Mais il y avait Saint-Jean-Bonnefond, je me mettais deux jours, et je me sauvais. Jusqu'au jour où j'ai eu deux signatures, internement d'office, j'ai fait un bordel, je suis allé sortir quand même. Je me suis évadé de Saint-Jean-Bonnefond, je courais sur l'autoroute.
Ouais.
À l'époque où j'étais, il y avait les malades et les toubibs derrière moi. Et je courais avec une copine qui courait pas vite. Oh.
Mais est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des différences entre les secteurs, enfin la détention pour hommes et la détention pour femmes, qu'il y a vraiment des choses qui sont très particulières pour les femmes?
Comment particulières? Particulières par les hommes?
Toi par exemple, des gens qui ont pu te parler de la détention et qui étaient des hommes, est-ce que toi ce que
tu
as vécu?
Ben, chez les hommes, c'est plutôt tu fais le mec, tu fais le macro, enfin tu fais le macro. Si dans ta cellule, tu vas essayer de commander tous les 604, tu vas commander tous les 4. Sinon, c'est toi qui vas passer la balayette, c'est toi qui vas faire, ou tu vas même cantiner pour les autres. Maintenant, chez les hommes, c'est comme ça. Hein. Faut pas être faible. Non, chez les femmes, c'est pareil aussi, mais c'est plus avec de tact, je pense. C'est moins flagrant que les mecs, parce que les hommes, c'est des hommes, hein, tu sais comment ils sont. Mais les femmes, c'est pareil, elles sont autant vicieux, c'est par-dessous. Alors ça, moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence.
Ouais.
Non.
Mais après, est-ce qu'il y a certaines... Tu disais, par exemple, tout à l'heure, la talaudière, c'est pas fait pour les femmes qui sont enceintes, par
ouais,
exemple.
Ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour les femmes. Ils n'ont pas les étriers, ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour les femmes. Alors, imagine, elles font leur grossesse là-bas. Elles sont jeunes, en plus, c'est des Roumaines, elles ont 14, 15 ans.
Parce que toi, t'as connu des femmes qui avaient un enfant en
ils
détention.
J'en ai vu la dernière fois, ouais. Ils l'ont transféré sur Lyon. Elle était gentille, cette petite Roumaine, elle demande toujours une cigarette. Ah, tu l'as fait fumer et tout.
Elle avait
un... Elle ramasse les mégots par terre. Je dis, arrête-toi. Alors, j'ai glissé deux cigarettes en treps. Elle me donnait la gamelle. Elle m'a dit, ouais, mais elle est enceinte. Je dis, écoute, elle ramasse les mégots par terre. Je dis, arrête un peu. Mais bien, tu veux les garder pour toi. Je dis, moi, je suis pas comme toi. Moi. Puis après, je la cherchais. Tu sais. Je dis, voilà, la petite. Elle m'a dit, ils l'ont transférée sur Lyon. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce qu'ils n'ont pas tout le matériel qu'il faut pour accoucher. Et moi, je sais pas, je suis sortie, j'ai accouché après dehors, moi. Donc, moi, j'ai cru que j'allais faire ma grossesse dedans. Moi, j'ai cru que j'allais accoucher dedans. Parce qu'il m'avait. Avec mon copain, ils avaient mis une tentative de complicité de meurtre sur un flic. Les assises, boum. Et j'ai fait de la prison à la Talo pour une fille. Ils l'ont attrapé, pendant qu'on était dedans, ils l'ont attrapé la fille. On était inculpés de ça pour vol au début. Puis après, comme j'étais seule avec deux mecs, Ils n'ont pas été chercher plus loin. Il y avait une agression. Une vieille qui s'était fait voler. Et en partant, les mecs, ils avaient planté le flic. Et nous, le juge, il m'a posé ça. Deux faits d'assises, c'est vous.
Bon. La dernière fois que tu
as... Non, quand j'ai non. Eu, quand j'ai attendu mon gamin.
D'accord.
Et quand t'as la pression sur toi, je te dis pas. J'ai dit, c'est lui qui va me libérer et tout. Il me court au bout, il me dit, votre histoire, je m'en fous. Maintenant, deux faits d'assises, boum. Et après, j'ai su, la fille a pris 8 ans. Et le mec, il en a pris 14.
Non, t'étais pas passé en procès à ce moment-là, en fait, t'étais en préventive.
Mec, hein, parce qu'il y a trouvé mensonge, quoi. Et le mec, il y en avait un, il était déjà en prison, il savait que je mangeais la gamelle pour lui. Et mon copain était à côté, toi. Il parlait pas, le mec, il lui disait quoi. Après, bon, ça s'est su, parce que j'ai une copine, qui me dit, t'es libérable, pourquoi? Il arrête de me dire ça, je suis pas libérable. D'ici, ils auraient été lâches, tout.
Donc, en fait, t'avais fait de la prison pour rien, cette fois.
J'aurais été libérable tout de suite, moi, presque. J'aurais fait un mois, j'aurais pas fait six mois ou sept mois, je sais plus. Mais ils m'ont tenu avec ça. Puis ils me disaient, c'est ton copain, il dit que c'est ton copain. Je dis, mais c'est pas mon copain, on n'agresse pas les vieux. Je dis, que ça veut dire ça. Même les stupes, ils m'avaient vu. Je dis, mais c'est pas du genre, c'est. Non, non. Parce que ça allait bien, signalement. Ça. Puis la fille. Mais moi, j'ai entendu le flic, il est dans le fourgon, il disait, ouais, la fille, elle est brune, elle est un peu grosse. Moi, j'étais blonde, mince. Moi, je l'ai dit au stupes, j'ai dit au flic, j'ai dit, mais j'ai entendu dans le fourgon qu'il parlait de quelqu'un, c'est pas le signalement. Et bien, ils ont attrapé le flic et on dit, je vais faire une fausse déposition. Pourquoi je disais, attention, on ne peut pas dire, c'est nous, tout le temps.
Ça va loin.
Le flic, il a fait une fausse déposition avec moi. Et après, la fille est dans un bar, elle a parlé, elle s'est engueulée avec le mec qui restait. Et elle avait un indice, puis il a pris le téléphone, il dit, voilà, c'est vous chercher, ils ont dit, boum, boum, ils ont arrêté. Ben, je les ai aimés, les flics, en fait. Pourquoi les indices, ça sert des fois, hein? Eh oui. Après, ça doute, c'est... même ma mère, elle avait des doutes, mon père, non. Déjà, il faut que tu dises que t'es en prison, en plus que t'es enceinte, et en plus que tu t'es en tentative de meurtre, hein, putain. Ah, mon fils, il me fait ça, je me tue. Hein? Non? Quand je suis tombée, il n'y avait pas de télé. Moi. C'était la radio. Elle était dans le mur de la talon. C'était une petite radio, un cristal dans le mur. C'était, elle avait toujours la même onde, je me rappelle.
Tout le monde écoutait la même chose.
Ouais, la même onde, il n'y avait qu'une station. Puis après, il y a eu les parleurs libres, la télévision. Mais la télévision, ça abrutit pas mal de gens. Parce qu'avant, les gens, ils se débrouillaient, ils faisaient du sport. Maintenant, ils mangent, ils grossissent. Ils sont sucrés toute la journée. Ils font plus de sport. Si, maintenant les mecs, ça suture les plus belles plaquettes et tout, t'as vu comment ils sont.
Toi, l'arrivée de la télé, tu l'as vu comme ça un peu, ouais, le... ouais. Les gens, ça, ouais, ça les abrutissait un peu.
Ah oui, parce que bon, dans la... quand t'avais que ça, t'sais, dans la cour, tu te défoulais, tu joues au volet, tu fais, bon, on court un petit peu, on faisait un petit peu de gym, on faisait pas mal de choses, qu'après avec la télé, tu fais plus rien. Après, bon, en plus, ils donnent des cachets pour que tu dormes avec des antidépresseurs, donc tu ne bouges plus, après. Et tu fais manger que du pain et du sucre. Après, t'as pas de sous. C'est vrai que je l'aurais eu dur quand même, ça aurait été arrivé maintenant. Je crois que, je sais pas, je me serais tué ou j'en sais rien ce que j'aurais fait. De toute façon, j'aurais été obligé de travailler à l'atelier, je pense. Hein. Puis maintenant, tout est cher, parce que tous les trucs qui te font cantiner, c'est les produits les plus chers, c'est les marques les plus chères. T'as pas le droit de faire rentrer des baskets, faut que tu payes les baskets, faut que tu payes, quoi. C'est dégueulasse.
Avant, le fait de cantiner, ça revenait un peu moins cher.
Non, c'est que pareil, tu cantines pour les 3 Suisses. Non, c'est pas donné les 3 Suisses déjà. Les mecs, maintenant, ce qu'on faisait pour les baskets, souvent j'avais mon copain, son frère, il venait au parloir. Mais quand t'es une fille, comment tu vas faire? Tu veux pas? Il y en a qui changent au parloir, ça. Moi, je l'ai vu faire souvent les baskets.
De changer au parloir?
Oui, ça vient, tac, il vient là. C'est parloir libre. Mais c'est mieux les parloirs libres quand même que les parloirs avec l'arbitre.
Les parloirs libres, c'est une grande pièce.
Ouais.
Où il y a plein de gens.
Alors, ouais, c'est vrai que c'est les gens, ils écoutent un petit peu ça.
Il y a moins d'intimité.
Ouais, ouais. Enfin, avec le truc aussi, avant, il fallait prendre le truc pour parler. Du coup, ça va t'aller au début, c'était gros truc avec lui comme ça. Tu vois, tout trouble et tout. Tu peux pas toucher, tu peux pas. Puis après, bon, c'est des petites tables, là. T'as les matons derrière.
Toi, t'as vu deux types de parloirs, en fait. Là où il y a la vitre et puis les parloirs libres. Les
parloirs libres, parloirs fermés.
Ben merci à toi.
Ça fait du bien un petit peu.
Eh ben vous êtes toujours à l'écoute de Papillon sur 89.5 sur Radio Dio. Avant de continuer sur la santé en prison, On va se passer un petit morceau de musique, de surf music, je crois. Mais avant, je voulais rapidement en fait, vous faire voir les petites musiques qu'on arrive à trouver dans l'interview. Donc les petites interludes, la petite musique lancinante, c'est deux musiciens palestiniens qui jouent du oud. Donc Samir et Wissam Joubran. Et le gros morceau, c'était encore une fois de plus un groupe basque. Peut-être défunt, je crois, Shkunk. Et le morceau s'appelait Jira Tabira, qui signifie en français « on tourne en rond », qui chante en gros la douleur d'être en prison, si loin des siens, et qui prône le rapprochement des prisonniers basques. Voilà, donc certainement un morceau de musique.
Avec Dave Myers and the Surf Tones.
Donc, suite à l'interview qu'on vient d'entendre, dont il est notamment question de la santé et de l'accès aux soins, on avait envie de passer un peu de temps sur le sujet. Et voilà, juste parler un peu de l'organisation de la santé en milieu carcéral, des différentes lois, et notamment celles relatives aux suspensions de peine pour motif médical. Et puis aussi passer un peu de temps à parler un peu des pratiques dans les prisons en général et à la Tolodière en particulier. Donc voilà, on a essayé de chercher le maximum d'infos, de recueillir le maximum de témoignages sur ce sujet-là, et on espère qu'on sera complet et qu'on ne dira pas trop de conneries.
Bon, mais moi je vais commencer par, pas un historique, mais vite fait quand même donner deux dates importantes. Il y a eu avant 1994, donc jusqu'en 1994, la santé était gérée par l'administration pénitentiaire. Donc, c'était encore le système de ce qu'on dit les fioles, c'est-à-dire que c'était les matons qui distribuaient les fioles. On ne savait pas ce qu'elles avaient dedans. Les gens étaient soignés comme ça. Et il y a eu aussi tout le scandale du sang contaminé dans les années 80, où les détenus donnaient le sang, mais on ne savait pas si ces détenus avaient le sida ou pas, donc, et on s'en fichait, mais on récoltait quand même le sang des détenus, donc ça participait à tout ça, quoi, à tout ce problème qu'il y a eu à ce moment-là. Donc en janvier 1994, Simone Veil, qui était ministre de la Santé de l'époque, a cassé ce truc où les médecins étaient appartenaient à la pénitentiaire, appartenaient au ministère de la Justice. Les médecins étaient du ministère de la Santé. Donc en fait, il y a eu une coupure parce que c'était des médecins de la Santé, vraiment, normalement sans rapport avec la justice, qui interviennent en détention.
Des infirmiers aussi.
Oui, des infirmiers. Voilà, docteurs, psychiatres, tout ça. Et ça a été la création des unités carcérales de soins ambulatoires, ce qu'on appelle les UCSA. Donc, c'est les hôpitaux qui mettent à disposition du matériel et des personnes à la pénitentiaire. donc dans le but de soigner les gens détenus comme les gens pas détenus. En fait, c'était sur cette idée-là. Bon, on verra que finalement, c'est pas tout à fait comme ça. Mais c'était l'idée, c'est la loi. Donc, dans les années 90, à chaque nouvelle construction de prison, on construit en même temps des unités de consultation, des endroits où les gens peuvent avoir des soins. Pour tout ce qui est les petits soins, c'est ce qu'on appelle les soins ambulatoires, donc les entorses, les machins. Bon, après, il n'y a pas le matériel nécessaire pour soigner les gens à l'intérieur, mais la loi veut que ce soit comme ça. Et les détenus vraiment malades sont soignés à l'extérieur de la prison, sous escorte policière, menottée, enfin, tout le teint de soin. Ça, c'est ce qu'implique cette nouvelle loi. Et aussi, les personnes qui sont allocataires de l'allocation handicapée, adultes handicapés, en prison, doivent pouvoir continuer de toucher cette allocation. Donc, ça existe encore. Mais ce qu'on voit dans cette amorce de loi de Simone Veil, c'est que bon, elle a voulu quand même favoriser, elle a voulu que les détenus soient soignés comme le reste de la population, mais en fait les moyens n'ont pas suivi, donc ça crée encore des problèmes, bien qu'il y ait parfois des médecins, des psychiatres en détention, en fait les prisonniers ne peuvent pas y accéder aussi facilement que ça. Ça, c'est un peu le regret. Donc, on va continuer sur les lois.
Oui, juste pour rajouter que, du coup, cette loi de 94, elle a aussi institué des services médico-psychologiques régionaux, SMR. Et par contre, à la maison d'arrêt de la Talaudière, il n'y en a pas, mais le psychiatre est rattaché donc à l'UCSA, unité carcérale de soins ambulatoires. Et juste pour ajouter aussi que du coup il y a un rattachement automatique des détenus au régime général d'assurance maladie et maternité de la sécurité sociale. Enfin, cette loi a impliqué ça aussi. Pour revenir sur les suspensions de peine pour motif médical, donc c'est une loi de 2002 sur entre guillemets les droits des malades et la démocratie sanitaire. Et donc cette loi, elle a introduit la possibilité, la suspension de peine pour des motifs médicaux. Donc, en gros, ça permet, dans l'idée, d'éviter à toute personne en fin de vie de mourir en prison. Et ça permet aussi d'éviter à toute personne gravement malade de demeurer en prison. Voilà.
Comme a bénéficié Papon, par exemple.
Ouais.
C'est cette loi qui a fait qu'il n'est pas resté en prison, qu'il a pu sortir.
Donc, en gros, aussi pour dire qu'il n'y a pas que Papon qui peut bénéficier de cette loi quand même.
Voilà. Oui, genre. Parce que... Oui.
Et c'est cette même loi qui a refusé ce que tu disais tout à l'heure, les prisonniers d'Action Directe.
En fait. Voilà. Rouillant, il est encore en prison, alors qu'il pourrait bénéficier de cette loi.
Voilà. Après, donc, il y a des critères et qui sont donc... comment on peut dire il y a des expertises médicales et du coup, finalement, ces critères qui peuvent paraître assez simples et assez objectifs... On voit avec ce que tu dis qu'au final, ils peuvent être retournés. Et, voilà. Et donc, les critères, c'est en gros que la personne soit atteinte d'une pathologie engageant son pronostic vital ou que son état de santé soit considéré comme incompatible avec son maintien en détention. Donc, voilà. Par exemple, le pronostic vital, à quel moment on peut considérer par exemple, on parlait tout à l'heure du cancer, à quel stade de l'évolution du cancer on peut considérer que ça engage le pronostic vital ? Est-ce que c'est 3 mois avant qu'on meure ? Voilà. Alors après, on voulait donner quelques infos un peu pratiques. Si des gens en prison ou des proches sentent que la situation est celle qu'on décrit ici, donc qui peut faire la demande ? Il n'y a pas de considération qui soit liée à la durée ou à la nature de la peine prononcée, donc par exemple criminelle ou correctionnelle, ni à la durée. Par contre, sont exclues les personnes qui sont en détention provisoire, les personnes pour lesquelles il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, donc qui sont considérées comme dangereux. Ça a aussi un lien avec ce qu'on avait parlé dans les précédentes émissions, la loi de Rachida Dati, voilà, qui est considérée comme dangereuse, etc. Et les personnes hospitalisées dans un service médico-psychologique régional pour troubles mentaux. Alors après, qui décide ? C'est le juge d'application des peines pour les personnes qui sont condamnées à une peine inférieure ou égale à 10 ans, le tribunal d'application des peines pour les autres cas, ou le juge des enfants et tribunal pour enfants pour les mineurs. Alors pour faire sa demande, c'est peut-être le plus important. Le détenu peut faire sa demande seul ou avec l'aide d'un avocat. Donc pour appuyer sa demande, il est conseillé de joindre un certificat médical. Ce certificat médical, il est à solliciter soit au médecin de l'UCSA, donc unité carcérale de soins ambulatoires, soit un médecin spécialiste extérieur, si le détenu est suivi à l'extérieur. Et ce certificat, il faut bien que ce soit marqué que l'état de santé est incompatible avec la détention. Et il est aussi conseillé de spécifier la pathologie pour qu'un juge désigne un expert qualifié. La famille peut également écrire au juge d'application des peines pour signaler la situation. Et l'avocat du détenu peut aussi déposer une requête. Alors voilà, cette situation, sachant que dans l'absolu, les chefs d'établissement et travailleurs sociaux du SPIP, donc du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et les équipes médicales sont censés signaler la situation de quelqu'un qui serait gravement malade. Donc pour avoir cette suspension de peine, il faut qu'il y ait deux expertises médicales qui confirment et qui disent la même chose sur la situation. Et les obligations qui sont imposées à un condamné bénéficiant de la suspension de peine, en général, c'est de se soumettre aux convocations du juge d'application des peines ou de la police, d'avoir sa résidence ou d'être hospitalisé dans un établissement qui est choisi par la juridiction, d'être suivi par le SPIP. Et en général, c'est une interdiction d'être en relation avec des gens qui sont en lien avec l'infraction.
Pour compléter, c'est vrai que les gens, par exemple, qui sont atteints du HIV, ils peuvent faire cette demande. Parce que leur cas, les expertises vont dire à chaque fois la même chose. Et il suffit qu'ils aient une résidence, un lieu d'habitation, en fait. Il faut qu'ils aient une adresse. Et dans ce cas-là, ils peuvent rentrer dans ce cadre-là.
Oui.
Concrètement, bon, c'est de la paperasserie, mais concrètement, ça peut aboutir. Mm-hmm. Il n'y a pas trop de problèmes. Seulement, les gens ne le font pas, cette demande. C'est ça, le drame.
Par contre, il y a un suivi aussi. Quand les gens sortent, ils ont des mesures à suivre, non, au niveau des...
Du soin ?
Mais il y a le soin, mais il n'y a pas aussi où ils doivent pointer au commissariat.
Si, mais c'est ce qu'on vient de dire. Il faut, mais à la rigueur, c'est pas... Enfin, le problème le plus gros, c'est qu'il faut avoir un domicile, en fait. Parce que si c'est une personne qui n'a pas de domicile fixe, c'est la merde. Mais si la personne, elle peut avoir un logement, et ben à ce moment-là, après d'aller pointer chez les keufs, c'est pas drôle, mais c'est voilà. Pas non plus... Impossible à réaliser, quoi. Le plus dur, c'est d'avoir le logement.
Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, du coup, en cas d'insoumission aux mesures de contrôle, donc par rapport aux convocations de la police, le suivi du SPIP, etc., si c'est pas respecté, la suspension de peine peut être évoquée. Voilà, c'est peut-être important.
Ah oui, il faut le prouver. Oui,
c'est toujours une épée de Damoclès, en fait.
Ouais.
En fait, c'est pas une libération, quoi. C'est, comment tu disais,
une suspension. De peine, ouais.
Ouais.
Et puis après, voilà, il y a les textes de loi, mais il y a aussi la pratique un peu de comment les choses se passent. Est-ce que tu veux en parler un peu ?
Oui, alors à la Talaudière, c'est des témoignages qu'on a recueillis d'anciens détenus et de familles, de proches de détenus. Donc ce qu'on en sait pour le moment, c'est que... Il y a une visite médicale dès l'arrivée, mais en fait, ça c'est obligatoire. Hein. Mais quand on arrive, on passe d'abord par le quartier des arrivants. Alors si on a eu de la garde à vue avant, donc on arrive vers le médecin déjà dans des conditions plus ou moins fraîches. On est plus ou moins attentif, on est plus ou moins déboussolé si c'est une première expérience ou même si c'est pas une première expérience. Bref, quand on arrive devant ce médecin, on n'est pas dans son état au top. Et le médecin demande aux personnes des questions type, ils ont un formulaire, et en fait, ce qu'on nous en a rapporté, c'est que ce n'est pas le moment le mieux choisi pour pouvoir se confier si on a des problèmes de maladie. Et les gens n'osent pas forcément dire tout de suite en arrivant ce qui leur arrive. Ensuite, il y a le test du dépistage du VIH qui est proposé. Il y a aussi un test de l'hépatite. Bon, alors, apparemment, ce n'est pas non plus encore le meilleur moment pour faire ce dépistage parce que si c'est pour apprendre les maladies qu'on a quand on arrive en prison, c'est pas très encourageant. Donc, tout le monde n'accepte pas de faire les dépistages. Et quand on est en cellule, donc la loi, enfin le règlement intérieur de la maison d'arrêt prévoit la possibilité de solliciter un rendez-vous justement à l'unité médicale, l'UCSA, dès qu'on le souhaite. Il faut remplir un petit papillon prévu à cet effet et le glisser dans la boîte à lettres extérieure de la cellule. Et maintenant, tout dépend du maton. Soit le maton prend la requête et l'emmène auprès du médecin, soit il ne le fait pas parce qu'il n'a pas le goût, ou parce que ça peut être une sanction aussi de ne pas faire suivre les demandes. Donc, c'est finalement à la bonne... au bon vouloir du maton de voir cette requête aboutir ou pas. Et si le détenu a besoin d'une consultation spécialisée, à ce moment-là, c'est pareil, il faut faire une demande et une extraction médicale à l'hôpital est prévue ou pas. Et là aussi, c'est s'il y a le temps... toujours pareil, quoi. C'est au bon vouloir des matons et voilà. Donc voilà ce qui se passe en gros à la Talaudière.
Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres choses, notamment par rapport aux maladies sexuellement transmissibles ou à la pratique, aux pratiques qui sont en cours par rapport aux suspensions de peine. Mais en fait, on va peut-être plus le temps nous manque. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours nous écrire, on répondra, il n'y a pas de souci. On redonnera l'adresse à la fin et puis on va peut-être juste donner quelques contacts importants donc, par rapport à différents problèmes de santé rencontrés. Donc dans un premier temps, l'OIP Rhône-Alpes. Donc l'adresse est 57 rue Sébastien Griffe, 69007 Lyon. Il y a aussi Actis, est-ce que tu veux...
Ouais, je vais donner les coordonnées d'Actis. Donc, c'est 6 rue Michel Servet, 42000 Saint-Étienne. Je ne sais pas si je donne le numéro de téléphone.
Oui, enfin, pour dire qu'Actis, que c'est pour toute demande d'information sur les maladies sexuellement transmissibles, pour les personnes atteintes d'une infection sexuellement transmissible, et surtout qu'il y a des possibilités de rendez-vous à la maison d'arrêt de la Talaudière.
Je file leur numéro.
Oui.
Ouais. Donc, c'est le 04 77 41 66 99, 41 66 99.
Et eux, ils assurent aussi la confidentialité, on peut aller les rencontrer sans problème, quoi. C'est sérieux et
oui.
C'est bien.
Après, il y a deux autres associations, donc il y a Rimbaud, soutien aux personnes toxicomanes, 11 places de l'Hôtel de Ville, 42100 Saint-Étienne. Le numéro, c'est 04 77 21 31 13, 21 31 13. Et Vie Libre, soutien aux personnes alcooliques. Donc je vais donner juste les coordonnées du centre départemental de la Loire, parce qu'en fait, il y a des sections. Alors, centre départemental de la Loire, Vie Libre, Loire, espace Benoît Fourneyron, 42160, Andrézieux, Boutéon.
Et Rimbaud intervient aussi à la Talaudière. Ils ont des éducateurs ou des assistants sociaux qui montent à la Talaudière et qui rencontrent les gens aussi.
Je pense.
Donc il ne faut pas hésiter à les voir et puis ils apportent vraiment de l'aide et des traitements, quoi.
Oui. Donc voilà, maintenant on va s'écouter. C'était un peu rapide sur la fin, on s'en excuse.
Ouais, on pourra essayer d'y revenir.
Oui, on essaiera d'y revenir.
On est là pour durer, quoi.
Ouais. On va s'écouter un petit morceau de musique que je ne sais pas
ce que c'est. Surtout, il ne faut pas hésiter à faire des demandes pour sortir, quoi. Parce qu'il y a des cas où des gens ont pu bénéficier de cette loi de 2002. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire cette demande, c'est important.
Et même à la Talo, d'ailleurs, il y a des gens qui ont pu sortir grâce à cette loi.
Oui, c'est ça, oui. C'est le témoignage qu'on a eu, quoi. Voilà. Donc, il faut avoir la résidence. Le truc, c'est qu'il faut avoir un lieu, quoi. Il faut avoir une adresse.
Voilà. Et voilà, donc l'émission Papillon touche à sa fin. Donc on va en venir aux petites infos de la fin et à l'agenda. Donc moi je voulais reparler encore et encore une énième fois de L'Envolée, un excellent journal pour en finir avec toutes les prisons. Donc c'est un journal dont l'adresse est basée sur Paris et qui se feront un plaisir de l'envoyer à n'importe qui, mais en particulier aux prisonniers. Ils veulent vraiment être lus dans les prisons. Et si vous n'avez pas les moyens, ce n'est pas grave, ça peut être gratuit. Donc abonnez-vous, abonnez vos amis. Voilà, donc L'Envolée, prenez votre petit stylo. C'est au 43 rue de Stalingrad, 93 100 Montreuil. Voilà, et pour les gens qui ont internet, vous pouvez les contacter par email envoléjournal@yahoo.fr. Voilà, et c'est un tas d'articles de fond, de témoignages, de lettres de prisonniers. Ça sort tous les 2-3 mois. Et voilà, c'est vraiment bien. On va enchaîner avec une autre petite info. On vous a parlé déjà de Sylvie, qui est la compagne de Christophe Kider, qui s'était évadée il y a quelques mois. Et on vous avait dit que Sylvie était incarcérée pour complicité, enfin pour soupçon de complicité à la Talaudière, et qu'elle avait envie de recevoir du courrier. Sylvie a été transférée à Valence. Donc je n'ai pas son numéro d'écrou, je peux simplement vous donner l'adresse de la maison d'arrêt et je pense que vous pourrez la contacter comme ça. Donc c'est Sylvie Picciotti, Picciotti, maison d'arrêt, 79 avenue de Chabeuil, boîte postale 2139, 26021 Valence Cedex. Donc 79 avenue de Chabeuil. Boîte postale 2139, 26021, Valence Cedex.
Moi, je vais apporter une petite info sur le collectif des sans-papiers. Donc, il y aura une session spéciale le samedi 13 juin de 10h à midi sur les infos juridiques concernant le séjour et le travail des personnes immigrées. Et je veux rappeler qu'il y a une permanence rue Basse des Rives au 31, les mercredis de 13h à 17h et les lundis de 18h30 à 20h30. Alors, vous pouvez les joindre également à ces moments-là au téléphone. Il y a un numéro de fixe qui est le 04 27 64 90 65 et un téléphone portable qui est le 06 47 58 24 74. Bien sûr, ils ont une adresse internet qui est, je vais épeler parce que ça me sera plus simple, co2l100pap@riseup.net. Donc c'est col100pap@riseup.net. Et n'hésitez pas à les contacter si vous connaissez des personnes sans papier ou si vous êtes vous-même en difficulté par rapport à ça. Donc ce sont des gens très performants. Voilà.
Alors je crois que le mercredi, par contre, c'est des permanences informatiques, non ?
Oui, ils ont mis en réseau des ordinateurs, des téléphones, et on peut aller donc au 31 rue Basse des Rives à Saint-Étienne, arrêt tram Tréfilerie, pour justement avoir toutes ces choses gratos. C'est mis à disposition pour les personnes. Voilà.
Bon, moi je continue. Le samedi 20 juin, donc si vous ne pouvez pas vous rendre au No Border, qui je rappelle est du...
23 au 29
Très
juin.
Bien. Vous pouvez quand même vous rendre à un rassemblement qui aura lieu le samedi 20 juin au CRA de Lyon Saint-Exupéry pour la régularisation de tous les sans-papiers. Alors, il y a des possibilités de covoiturage et de car, mais au départ de Lyon. Je ne sais pas s'il y a une possibilité encore sur Saint-Étienne, mais pour Lyon, si vous pouvez au moins vous rendre en train à Lyon. Et après, le rendez-vous est à 13h, métro D, Mermoz-Pinel à Lyon. Voilà.
Une dernière information encore. Donc demain, lundi 8 juin, à 13h30, devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne, il y a un rassemblement pour soutenir une personne qui est attaquée en justice par l'ancien préfet de la Loire et l'ancien sous-préfet par rapport à un mail de protestation qu'il leur avait envoyé. Donc ce mail faisait suite à un appel lancé par la Ligue des droits de l'homme et Réseau Éducation sans frontières. Par rapport à des militants des droits de l'homme chinois qui avaient été arrêtés à Saint-Étienne en 2007. Et donc cette personne est poursuivie pour outrage, en gros, parce qu'il y avait un parallèle fait avec le régime de Vichy. Et donc voilà. Donc demain, enfin lundi 8 juin à 13h30 devant le tribunal de Saint-Étienne.
Notre ancien préfet est maintenant au ministère avec Besson. Il a été très vaillant pendant sa venue à Saint-Étienne. Il a été très fort sur les arrestations de sans-papiers, en fait. Du coup, il a eu une promotion. C'est bien.
Voilà,
il va faire carrière.
Sur cette petite note joyeuse, l'émission Papillon touche à sa fin. Donc, je voulais quand même rappeler qu'elle est rediffusée donc, sur Radio Dio le jeudi 11 juin à midi puis à 17h et qu'elle est aussi rediffusée sur Radio Canu à Lyon, donc c'est sur 102.2 FM, ce sera le mardi 15 juin à 20h et que nous on va se retrouver le premier dimanche de juillet en direct, c'est-à-dire le 5 juillet. Voilà. Et je voulais rappeler l'adresse, donc je rappelle qu'on a bien envie de recevoir des courriers et des remarques et des impressions, et notamment des témoignages ou juste des lettres de l'intérieur de la prison. Donc je rappelle notre adresse et même je la donne encore plus complète que d'habitude. Donc c'est Émission Papillon, 14 bis rue de Roubaix, boîte postale 51 42 02 Saint-Étienne, CEDEX 1. Voilà, donc c'est bien de préciser boîte postale 51. Et à savoir que les prisonniers qui nous écrivent, ils recevront au minimum un timbre en retour, parce qu'on sait que c'est pas évident. Et voilà, c'est fini. Un grand bonjour à tous les gens qui nous écoutent, notamment ceux qui sont à la Talo, derrière les murs. Bon courage, bonne soirée.
Et merci encore à la personne avec qui on a discuté.
Ouais, merci beaucoup. Et puis des bises à Nabil. Ah oui, et un dernier truc, il y a la clé des ondes, c'est tous les mercredis, aussi sur Radio Dio 89.5 FM. C'est de 17h30 à 19h. Vous pouvez appeler au 04 77 438 895 pour passer des messages en direct à l'antenne pour les détenus de la Talaudière. Voilà, salut, à bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao.
Salut.
Cellule au premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Ils ont commencé à l'aile gauche de la tour. Des perdue avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Gaffe les mecs, ça va saigner. Sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. Tu lâches le radis, je me fais encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.